Est-ce que... Voilà, c'est bon.
Il faut peut-être pas appuyer deux fois sur celui-là, parce que tu vois sur les...
Non,
ça
non,
a démarré.
Non.
Parce que les anciens Zoom, il fallait appuyer une première fois, puis une seconde. Et si tu oublies la seconde fois, tu fais une heure d'entretien et tu n'as plus rien.
Tu n'as plus rien, ça m'est arrivé avec le Théo François en plus. Alors, bonsoir et bienvenue chez nous de retour, hein, Olivier. Alors, tu es présent en Martinique, tu es de passage en Martinique. Pour quelque chose, un but particulier, ou bien c'est juste le hasard?
Non, je suis venu là très concrètement dans le cadre d'une invitation de Ciné Martinique qui se passe donc ici à l'Atrium, Sioma Diana et autre part, une programmation de cinéma. Et donc moi, je suis entre autres choses producteur de cinéma. Donc, je fais différentes activités, mais j'ai accompagné d'abord longuement des artistes plasticiens et visuels, puis dans les arts visuels, et puis progressivement, je me suis engagé dans le cinéma. Et donc là, je viens de présenter un film de Sanana Ada qui s'appelle Nommé, qui était au Festival de Cannes cette année et qui est présenté ce soir dans le cadre de Ciné Martinique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Alors, je suis venu un peu plus largement parce que par ailleurs, je fais une recherche-action sur la question des résidences d'artistes, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Voilà, voilà pourquoi je suis là.
D'accord.
À part le plaisir de venir en Martinique.
Bien sûr. Nous avons un ami qui est un peu aussi guadeloupéen, qui est un peu assez, à peu près dans le même type, on va dire, de démarche, qui s'appelle Eddie Firmin. Tu dois peut-être certainement le connaître.
Je le connais bien, j'ai même appris à le connaître un peu plus parce qu'il m'a invité à être commissaire d'exposition de la Biennale Afflux à Montréal, la Biennale transnationale noire qui commence le 11 novembre.
Oui.
Je suis l'un des principaux commissaires d'exposition.
Oui.
Voilà, et je connaissais Eddie un peu à distance par ses écrits, par ses productions, et là on a appris à mieux se connaître à travers ce projet.
D'accord, très bien. Alors voilà, donc Mélange Caraïbes, c'est le nom de notre association qui œuvre à la compréhension, à la connaissance des cultures de la Caraïbe et des Amériques et du monde indécouvert. Et je vois que cette tournure te fait sourire. Et voilà un peu quelque chose qui nous a beaucoup intéressé dans ton ouvrage, c'est la connexion avec le monde indécouvert. Alors mine de rien, dans Suite décoloniale, tu nous entraînes dans une sorte de genre, on parle de road movie, on parle aussi de, je sais pas, de, j'ai pas envie de dire, de running book. Où il faut suivre quelque part le marron, il y a un marronnage, c'est remarquable. Tu veux nous en parler un peu de ton projet?
Mais je pense que là où tu vois assez juste, c'est que moi j'ai assez rarement fait dans ma vie, autant dans un travail d'écriture, un travail visuel que dans mon travail de production, j'ai assez peu travaillé sur des choses qui étaient à propos d'un sujet, mais j'ai plutôt essayé de réfléchir à l'effet de ce sujet sur la forme.
Oui.
Et donc effectivement, j'intéressais aux formes du marronnage, ça pourrait faire un livre à propos du marronnage, et certains sont essentiels et importants, qui raconteraient des histoires, des géographies. Là, c'est autre chose. Là, il s'agit plutôt d'essayer de réfléchir à dans quelle mesure, lorsqu'on vient de ces histoires-là, comme nous sentions, dans quelle mesure ça affecte notre manière d'écrire, de penser. Et là, en particulier, il s'agit de faire une espèce de théorie vagabonde, quoi, donc une théorie en chemin. On disait pour Fanon une théorie voyageuse. Donc moi, j'aime bien cette idée-là. Mais pas au sens du trivial du voyage, mais au sens de la difficulté à trouver son endroit, quoi, à être toujours en mouvement. Et donc, quelque part, c'est aussi un livre de crise, au sens qu'en fait, c'est aussi un livre de recherche d'un espèce d'état possible de vie dans une situation qui est difficile à vivre. Donc, c'est un livre de crise aussi. Et de toute façon, je pense que pour les Antillais, la conscience et la pensée passent forcément par un moment donné de crise, parce qu'on est aussi construit dans une histoire en partie mensongère, et plus on a passé de temps dans ces histoires mensongères, plus le moment de crise est profond, et donc la découverte de quelque chose de plus profond, mais comme tu dis, c'est à la fois découvert mais pas su immédiatement, c'est-à-dire qu'on découvre une espèce d'abîme dans laquelle on cherche. C'est un peu le sujet de ce livre-là aussi, mais en essayant d'en donner aussi la sensation. C'est-à-dire pas simplement nommer des choses, mais nommer le vertige, en fait, de rechercher des choses. une certaine mesure aussi, c'est une espèce de fausse autobiographie ou autobiographie spéculative, où au lieu de revenir sur soi comme individu, c'est qui est devenu un peu quand même un motif hein, de la pensée, notamment noire et notamment inspirée par les Black Studies, revenir sur soi dans sa pensée personnelle. Là, je me sens beaucoup plus proche de quelqu'un comme Sadia Hartman, qui revient sur elle pour imaginer une vie, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de parler de soi, on élargit le soi à une espèce de soi politique, ce que moi j'appelle le monstre carré.
Ouais. Et puis aussi, il y a des figures, il y a des lieux de passage, il y a des topos que tu redécouvres, que tu revisites et dont tu nous dévoiles la dimension cachée. Alors, je tout à l'heure, on parlera de ce très fort passage, de cette relation que tu fais avec Sylvia Winter, et parce que tu parles du plot, hein, le plot qui est le récit, qui est l'intrigue, et qui est en même temps le lopin de terre, qui nous ramène au jardin créole, qui nous ramène à la quelque part, cette première démarche d'émancipation, de j'ai envie de dire, comment il appelle ça déjà, le théoricien, oui, Foucault parle de d'hétérotope. Bon, c'est un très grand mot, mais en fait, c'est déjà un début d'évasion, d'émancipation. Alors, ce que je trouve qui est intéressant, c'est quand même, il y a des figures qui jouent le rôle de transition, comme la figure du conteur, par exemple. Tu parles du conteur. Je suis étonné quand même. Ça m'a un peu surpris, ce rapport au conte. Comment est-ce que tu...
Alors, du coup, je la revisite aussi, parce que c'est une espèce de jeu de référence antillaise qui n'est pas non plus une reproduction à l'identique. Ce qui m'intéresse dans le conteur, c'est plusieurs choses, en fait. C'est d'abord une chose qui est très présente dans le livre, et à la fois théoriquement et à la fois formellement, qui a un intérêt pour la question de la répétition. Répétition comme motif épistémologique qui s'opposerait à l'obsession de l'originalité et de la découverte. Le nouveau serait ce qui n'a jamais été vu, alors que pour moi, dans la question de répétition sur le conteur, c'est du nouveau déjà vu, retravaillé, répété, encore et encore dans différents contextes, comme on fait grandir une idée, comme on la pousse en fait en la répétant. Et moi qui ai fait mon parcours dans le milieu de la culture et notamment dans le milieu de l'art, je me suis bien rendu compte que le nœud en fait colonial de l'art était autour de la question de la découverte, de la nouveauté, de l'originalité, de la figure de l'auteur. Et quelque part, le conteur était pour moi une espèce de figure d'anti-auteur. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas auteur de ce qu'il dit, mais qui va être auteur de la manière de le dire, et sans cesse. Et donc c'était une solution pour moi pour trouver une figure qui nous défaisait en fait de l'obsession narcissique, de cet hérissage occidental de la propriété privée. Et donc le conteur comme parole non propriétaire, ça m'intéressait. Et aussi, évidemment, comme parole spéculative, si on reprend l'origine du conteur au début en plantation, comme en parle très bien Chamoiseau, c'est-à-dire celui qui, quelque part, invente, mais en même temps qu'il raconte. C'est fait progresser un récit en même temps qu'il raconte, puisqu'il essaye de raconter plusieurs choses, et il voit bien, et ça c'est la chose qui m'intéressait, c'est que Chamoiseau raconte, en fait, qu'en plantation, la problématique du conteur, c'est qu'il n'est pas qu'en face d'autres esclaves, ce qui serait le plus simple, le maître est dans le cercle. Donc il est directement en situation d'expérience de ce que nous, on va vivre aujourd'hui dans les scènes artistiques sur lesquelles on est toujours en présence d'un œil qui nous regarde, et qui n'est pas forcément amical. Donc comment parler pour parler à ses pairs en présence des maîtres et de leurs descendants. Et ça, le conteur, du coup, nous apprend cette ruse-là, moi j'appelle ce parler des parlants, donc une espèce de langue, en fait, qui quelque part, et je l'ai très bien vu avec ce livre, le livre est compris et reçu de manière très différente selon qui le lit. Donc il n'est pas complètement transparent, en fait, en quelque sorte. Donc là, de ce point de vue-là, cette figure du conteur, elle m'intéresse, mais elle est évidemment réinvestie au-delà même de l'histoire du conteur créole, je dirais, canonique, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, vers quelque chose d'un peu contemporain, quoi, de se dire on a encore besoin de conteurs, c'est-à-dire qu'on parle toujours en pays occupé.
Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Ça a l'air
intéressant, ce paradigme du conteur, effectivement, que tu prends comme élément clé pour définir une espèce de marronnage, une espèce de vertige particulier, une fuite qui permet de traduire un métalangage, peut-être, me semble-t-il. Ça me semble très intéressant. Dans ta pratique artistique.
Alors, je voudrais qu'on revienne au titre, à la première de couverture. Mmh. Bon, le titre de l'ouvrage, c'est « Suite décoloniale » et le sous-titre « S'enfuir de la plantation ». Alors, c'est presque antinomique, non ?
Bah oui et non, parce qu'en fait, dans la question de suite, déjà en fait, parce que le livre est composé d'un ensemble de mouvements et de rebonds.
Des suites musicales,
en fait. Des suites musicales, qui n'a pas un effet conclusif, en fait. C'est-à-dire que moi, je considère que la question décoloniale est toujours à reconduire, et depuis même le livre, d'autres, tellement de choses ont paru, toujours à reconduire et à enrichir, pour ne pas refermer en fait le sens de ce qu'il faudrait décoloniser. Immédiatement, lorsqu'on a pensé décolonisation, on a d'abord pensé aux décolonisations des pays qui se sont déroulés dans les années 60-70. On a bien vu que ce n'était pas suffisant. On décolonise un État, il faut décoloniser une société, il faut décoloniser des esprits, le langage, des épistémologies. Et puis, sans cesse, on a rajouté des choses à décoloniser, traduisant en fait le fait que c'est quelque chose qui a beaucoup de profondeur. Que la question coloniale n'est pas une question de surface, n'est évidemment pas une question uniquement d'histoire et de passé, c'est une question de présent et donc de colonialité, un processus qui nous engage aussi émotionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi traversé par des désirs qui sont aussi des désirs hérités de la question coloniale. Donc la suite, c'est comme si, en examinant un point, on en découvre un autre, on en examine encore un autre. Et donc, ça n'a pas un effet de conclusif, mais plutôt un espèce d'effet de spirale, comme ça. Là, encore une fois, on est sur la question du conteur et des épistémologies de la Caraïbe, notamment avec Franck Étienne, le spiralisme. L'idée, en fait, qu'on va vraiment sans cesse revisiter, dans cette espèce de répétition différente, les possibilités. Et donc, la fuite, du coup, elle prend la forme plutôt d'une spirale, comme ça, centripète, parce qu'elle ne peut pas être une ligne, la fuite. On n'y arrive pas si on s'en va comme ça. Et justement, le mythe romantique de la fuite, c'est-à-dire que s'enfuir, c'est partir de la plantation, jamais revenir, ce mythe romantique ne nous aide pas à comprendre ce que c'est que le marronnage. Il y a mille manières de marronner, et d'abord on marronne en se défaisant en fait de l'esclave qui est en nous. Donc certains, même avant de bouger, commencent déjà à décider qu'ils vont un jour bouger. Et ça, c'est important, parce que si on crée une figure romantique de l'esclave qui s'enfuit en ligne droite, comme ça, il part, ne revient jamais. D'abord, les esclaves reviennent, ils font des razzias dans les plantations, parce que la plantation est quand même un espace de ressources dont ils ont besoin, pour trouver de l'eau, aux alliés, pour trouver des bêtes, tout ça. Donc, ils partent jamais très loin, car en effet, ils partent de plus en plus loin en spirale. Plus ils prennent confiance, plus ils structurent leur lutte, plus leur savoir, plus ils vont plus loin, en fait. Mais cette espèce de ligne droite, c'est pas ça, le marronnage. Le marronnage, c'est des micro-refus. C'est les femmes qui cultivent dans les jardins créoles des produits pour avorter, pour ne pas donner d'enfants au maître. C'est des fuites qu'on doit vraiment être capable d'identifier.
La pharmacopée.
Voilà. Et cette pharmacopée-là, elle a un sens pour moi parce qu'elle est une fuite non héroïque. Alors qu'on aurait l'impression, et ça c'est un piège, hein, je pense que la réhabilitation des combats de la Caraïbe ne doit pas se faire en fait sous le seul chapitre d'une forme d'héroïcisation qui serait symétrique avec les panthéons occidentaux, mais on doit aussi inventer, nous aussi, d'autres formes de héros. Tous ceux qui sont soustraits à cette histoire-là, de toutes les manières qu'ils puissent, des plus héroïques aux plus simples. Et donc c'est pour ça que la question de la parcelle m'intéresse, le plot, parce qu'effectivement, pour moi, le jardin créole, c'est le début du marronnage. C'est le début de la recomposition de soi dans une possibilité imaginaire.
Mais est-il besoin de cette épique traditionnelle, justement ? Ne va-t-on pas dans une épique plus différente, au niveau plus moderne ? C'est-à-dire une épique où, justement, la pharmacopée, tous ces mouvements, je dirais, du cosmos, etc., participent d'une espèce d'allégorie, quoi.
Oui, ben là, l'idée, c'est qu'aussi, quand au départ, moi, je me propose de parler du monde de l'art tel qu'il est, on est encore dans une situation où on pense que dans l'art, on va parler ou pas de la question des coloniales. Donc, encore une fois, une thématisation. Moi, je pars d'un postulat qui est plus radical. Je dis, mais le monde de l'art est une plantation. Donc, en fait, c'est le monde de l'art qu'il faut décoloniser. C'est pas parler de la décolonisation du sujet, c'est réfléchir à comment les interactions, les rapports de pouvoir sont construits dans cet espace-là sous la forme plantationnaire, c'est-à-dire sous la forme d'une menace permanente, sous la forme de pouvoir exister sous le régime d'un œil particulier. Et c'est au moment où, moi, je commence à faire ce livre-là, il y a plusieurs années de ça, où émergent les premières générations plus importantes d'artistes non blancs, d'origine africaine, d'origine asiatique et caraïbienne. Et là, la question, c'est comment exister sur une scène sans reconduire le fait que quelqu'un est maître de la scène, mais pour pouvoir partager une scène qui soit produite pour tous et par tous. Donc, c'est aussi un jeu de pouvoir, parce que quelque part, montrer des artistes à des moments donnés racisés, c'est dire, bah, vous êtes bon à faire le... vous êtes bon à faire l'entertainment, vous êtes bon à, comme dans les salons des plantations où les hommes noirs faisaient des luttes à mort comme des spectacles, vous êtes bon pour ça, mais par contre, c'est pas vous qui décidez de comment la scène se déroule. Là, c'est une mise en cause. Ben si, là, nous, maintenant, on engage un nouveau mouvement, on ne va pas se satisfaire d'être les figurants d'un spectacle que vous créez, on veut être les maîtres de la scène de représentation. Et là, c'est un débat très différent, parce que là, évidemment, là où tout le monde était un peu satisfait d'avoir un petit strapontin et une petite place, là, il y a une mise en critique de la métastructure et de domination, ce qui a fait que le livre a fait quelques remous sur la scène, de tous les côtés, hein, des artistes racisés aux directeurs de grandes institutions blancs. Ça a mis un... Mais, je dois dire, ce qui est quand même positif, c'est que autant il y a tout un espèce de débat sur oui, mais alors comment faire ci, que au fond personne ne conteste cette hypothèse-là. Moi, j'ai jamais eu sur ce livre quelqu'un qui m'a dit non, mais dire ça, ça va. Des gens qui dirigent des grandes institutions disant ouais, mais alors on va où? Des artistes dire ouais, mais alors on va où? Mais personne ne te dit, mais c'est pas vrai. En fait, c'est des étudiants lisent ce bouquin-là, des artistes ce bouquin-là. Beaucoup de gens le lisent en disant « Ok, bah, il fallait peut-être que quelqu'un le dise quand même. » Donc c'est le rôle de ce travail-là. Mais pour moi, c'est un livre qui était conçu avec d'autres livres autour, qui vont paraître dans les années à venir, qui est comme un socle, tu vois. C'est comme si tu fais une espèce d'analyse de situation. Et puis, il y a parfois une page, deux pages, tu vois, qui sont comme l'encoche d'un arbre possible, ouais, quoi, d'un truc fait. On dit, mais là, si on pousse là, ça va pouvoir... Et là, les livres qui sont à venir vont vraiment développer la question de la veillée, la question de la désidentification, la question de la politique de la voix. Mais là, le livre est plutôt un livre assez horizontal.
Ouais.
Il crée un espèce de terrain que moi, j'appelle une scène.
D'accord. Alors... il y a évidemment la question de la transmission aussi qui se pose, parce que bon, nous connaissons tous deux le nom de ce pédagogue, de ce professeur d'art plastique guadeloupéen qui a cité ce savoureux passage sur ta conception de la pédagogie, hein, et qui évidemment a fait les frais, comme on le sait, hein, de l'institution. Hein, et, bon, on ne va pas le nommer, mais on sait de qui nous parlons. Alors, cette question de la transmission, justement. Parce que c'est un livre qui est d'un abord assez, dirons-nous, théorique. Voilà. Et il a toutes les vertus d'un traité, toutes les vertus d'un manifeste, en quelque sorte. C'est une invitation à, en quelque part, Emancipate Yourself from Mental Slavery, hein, au spiralisme, etc. C'est un livre qui connecte beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensée, de mouvement, et qui condense tout cela en une sorte de fuite qui n'est pas une fuite. Enfin, c'est une... Enfin, quand je dis une fuite, s'enfuir de la plantation, ce n'est pas forcément, comme tu dis, la fuite linéaire, hein, dire, bon, ben voilà, et puis, on pourra te poser des questions des artistes. Et maintenant, on fait quoi? D'où la question, et maintenant, on fait quoi? Non. C'est cela, en fait, qui est important. C'est arriver à transposer, transmettre, didactiser un peu ce concentré de science et le rendre accessible au public. Et là, je pense que c'est un peu notre travail à Mélange Carré, de notre présence ce soir. Alors, par quoi on commencerait? Je ne te dis pas où on va, mais par quoi commencer?
Déjà, tu poses une une question formelle intéressante, et je trouve que c'est bien d'en parler, parce que moi je suis aussi en rapport à toute une scène où il y a des gens plus anciens et des gens plus jeunes. Et je dirais qu'à l'endroit de la didactique sur les questions décoloniales, il y a eu un fort investissement de jeunes auteurs ou activistes, ou je ne sais pas comment les appeler, parfois sur Instagram. Ils ont pris vraiment en fait l'idée de très rapidement raconter des histoires, des situations, parfois des histoires de pensée aussi, tu vois, et parfois de manière voilà, assez rapide, mais parfois assez efficace aussi. Et puis avec le temps, ils trouvent leur écriture. Il y en a plusieurs qui maintenant commencent à avoir une grosse audience sur Instagram et ils font ça. Et moi, quelque part, je participe à un mouvement qui est plus ancien, qui est celui de la matière première. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour les gens pour vulgariser et créer une forme didactique, mais tu dis, mais à partir de quelle matière?
Oui.
Donc, quelque part, c'est aussi lié à un parcours personnel. Moi, je n'ai pas le même âge que ces personnes-là, mais aussi lié à considérer qu'on ne travaille pas seul. Le tout début du livre, c'est la question du conteur qui pense que c'est la fin, et puis il se relève parce qu'il entend les voix des gens. Il y a comme un espèce d'appel, en fait. C'est-à-dire, il est presque au seuil de la mort et il se relève.
C'est ça.
Il y a une espèce de relèvement comme ça qui est l'espoir d'une transmission. Moi, je travaille toujours en connaissance d'une scène et en rapport avec cette scène. Il y a une obsession, en fait, d'un modèle capitaliste marchand qui veut occuper tous les espaces. Moi, ce n'est pas trop mon cas. C'est-à-dire que je pense que c'est assez intéressant d'occuper des espaces spécifiques.
Oui.
Surtout, nous, aux Antilles, on a besoin aussi de développer un endroit où on est particulier dans notre manière de faire, mais en étant conscient que le travail plus généraliste, plus didactique, est fait aussi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand je pense que c'est pas fait sur un truc, je me dis, tiens, il faut le faire. Mais quand je pense qu'il est fait, je me dis pas, je dois le faire aussi, je me dis, c'est fait, en fait. Je me dis, mon travail, il se relie à ça. Les gens qui font ça lisent mon travail. Et j'ai plutôt, voilà, une appétence à créer vraiment ce travail de recherche un peu spéculative. Là, je termine un nouveau livre autour des émeutes, qui date d'un travail que j'ai commencé il y a 12 ans. Et qui est pareil, une espèce de truc où il y a des choses un peu particulières qui se racontent. Et je me dis que bah, pour des gens qui ont des émissions en ligne ou qui vont enseigner quelque chose, bah, il y aura un matériau sur lequel ils pourront prendre quelque chose et faire ce travail-là. Donc moi, je me suis moins investi dans ce travail-là de synthèse, même si j'enseignais une partie de ma vie. Et je trouve très important qu'il y ait une transmission. Mais je trouve qu'on a aussi une... On a aussi une dynamique aujourd'hui qui épuise un peu la matière qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la matière et pas beaucoup de gens qui en produisent.
Oui.
Et donc je me dis, bon, bah, il faut quand même qu'on se mette de nouveaux trucs sous la dent.
Oui.
Voilà, donc c'est... Alors pour moi, ce qui m'a intéressé avec celui décolonial, c'est aussi le travail qu'on peut faire quand on a un parcours intellectuel, de rapprochement de choses, un truc qui est ici, un truc qui est là, que tu l'as vu. Voilà, faire des espèces de connexions où, bon, bah, les choses, elles sont là, mais elles n'ont jamais été mises.
Inhabituelles, quoi.
Dans des espèces de mises en rapport, comme ça, on se dit, ah ouais, d'accord, on peut très bien penser ça. Moi, j'essaie de le faire, tout en essayant aussi, au fil du livre, de raconter mon propre parcours intellectuel le plus honnêtement possible, c'est-à-dire mes propres découvertes, et mes propres déceptions, et mes propres errances. Ce qui est rare dans un travail intellectuel, on arrive plutôt à une théorie quand elle est terminée, l'objet, il est là, il est beau, et on y va. Là, moi, c'est vrai qu'il y a aussi la... Tu vois, le truc qui tombe des mains, tu le ramasses, tu le reprends, machin, et puis à un moment donné, quelque chose se passe. Et j'ai eu envie de raconter cette espèce de parcours de pensée. Donc là, il faut un autre espace pour faire ça, et une autre langue. Mais moi, je pense que ce que ça pose ici, c'est que ça pose en tout cas une idée assez simple, qui est que la question décoloniale n'est pas une question de sujet, c'est une question de pratique. Mmh. Et donc le livre engage le fait que thématiser le décolonial, il y aura plein de gens, parce que ça rapporte un peu d'audience, machin. En ce moment, c'est quand même des mots-clés qui marchent bien. Sauf que mon travail, il dit, ouais, mais on ne va pas s'arrêter là.
Concrètement, il faut...
Voilà, on ne va pas s'arrêter là, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? Qu'est-ce que ça veut dire si on applique ça à ce qu'on est en train de faire? Pas juste faire un petit programme cool, pas juste faire un petit... Non, non, concrètement, dans la manière dont on travaille ensemble, dont on produit les choses, dont on...
Dans la vie quotidienne.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, c'est vrai que c'est plus exigeant. Mais ça a permis à pas mal de gens de comprendre, en fait, cette différence entre une thématisation et la question des pratiques. Moi, j'appelle ça le geste décolonial. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de geste? Et ça, pour moi, ça m'importe parce que je pense qu'on peut avoir une société qui ne va presque pas bouger de comme elle est, tout en pouvant parler et gloser à l'infini de féminisme, d'écologie, de décolonial. Moi, ça ne me va pas. Je me dis, si on prend au sérieux ces nouveaux apports épistémologiques, nouvelles questions, nos vies doivent changer, nos sociétés doivent changer, nos relations doivent changer, et puis on a plutôt intérêt, quoi, parce que ça ne va pas. Quoi. Le monde est en train de nous dire, bah, si vous ne changez pas, nous, on va vous changer. Quoi. Parce que là, il y a le monde en tant qu'entité globale qui réagit et qui nous dit, bah, écoutez, ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça vous promet de ne pas exister encore très longtemps encore en tant qu'espèce. On a encore du mal à le comprendre, on continue à le faire, alors que les réactions du monde en tant qu'organisme global nous montrent qu'il faut qu'on arrête. Donc pour moi, c'est engager aussi des manières de penser qui sont aussi presque, comment dirais-je, où on trouve une technicité, parce que dire que quelque chose est mieux quelque chose, pour des questions morales, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les êtres humains ne marchent pas à ça. Il faut trouver un truc plus factuel, en fait, essayer de trouver les pratiques du commun comme étant plus efficaces, par exemple, pour arriver à quelque chose, plus juste.
Alors, justement, je t'ai posé cette question de la transmission, de la didactisation, de la thésaurisation par rapport au fait que la dernière section de ton ouvrage, cette étude, les leçons. Alors, parmi celles qui m'ont marqué, il y a la première leçon, justement, la leçon de Bruxelles, hein, tu nous parles de ta connexion avec l'Open School. Alors ça c'est intéressant quand même comme concept, parce que nous sommes tous les deux enseignants, Gérald et moi, et nous sommes en train d'essayer de créer quelque chose qui peut ça, Gérald, avec Mélange Caraïbes, Tacan, au sein des institutions qui sont très normatives. Nous sommes professeurs d'université, nous essayons d'ouvrir un espace. D'ouvrir un espace qui
il n'y a pas trop d'espace là.
Mais oui. D'ouvrir un espace de baronnage qui soit suffisamment stimulant et intellectuellement et émotionnellement et relationnellement et personnellement et physiquement et corporellement pour désaliéner cette jeunesse qui ne croit plus finalement au curriculum que l'on propose, qui t'écoute distraitement, qui se disent bon ben quand est-ce qu'on nous donne ce diplôme, qu'on passe à quelque chose d'autre. Bon, et c'est-à-dire ce quelque chose étant d'autre, étant la vie, la vraie.
La culture du zapping.
Voilà. Donc, tu nous proposes donc ceci, et moi je dis encore que puisqu'il y a une case qui est vraiment une case, pardon, je parle de case, mais c'est le chapitre qui.
Des leçons, ouais.
Ouais.
Bah, en fait, le chapitre des leçons, il a un petit côté ironique parce que j'introduis le leçon en disant c'est pas une leçon que je donne, mais c'est une leçon que je reçois et dont je témoigne. Parce que je pars du principe que l'une des faiblesses, on va dire, des fragilités du monde de l'art, c'est plutôt l'omerta et le silence. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, on pourrait le dire de l'université aussi, il se passe des choses que tout le monde voit, auxquelles tout le monde assiste. Mais pour des raisons de peur, de pouvoir, tout ce qu'on veut, en fait, la chose ne se raconte pas. Et je me dis, mais tu raconterais cette histoire-là, là pour le coup les leçons sont extrêmement didactiques et pédagogiques, il s'agit juste de récits, de situations. Et ces récits de situations, ils sont assez simples parce qu'ils sont la plupart du temps adressés. C'est-à-dire que là, en fait, j'écris à la leçon de Bruxelles, j'écris au directeur d'une institution. La leçon de Genève, j'écris aux étudiants d'une école. Donc à chaque fois, c'est un truc qui m'est arrivé et que je publicise au sens que je rends public. C'est une histoire qui m'est arrivée. Tu es invité à participer à quelque chose et puis tu vas faire une intervention. Puis ça se passe pas très bien et tu te dis
ouais, quand même. Hein. Mais quand même. Hein.
Mais tu te dis y a quelque chose. Ça vaut la peine d'y revenir.
Ouais.
Et donc notamment à la leçon de Bruxelles. Je suis invité par justement une espèce d'organisme donc, comme ce dont tu parles, donc qui nous présente le fait qu'il est plus fluide qu'une institution, un open school, et qui va travailler sur des questions minoritaires, de genre, décoloniales, etc., mais dans l'institution du musée. Et bon, moi je parfois ces personnes, je me dis oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc j'accepte de participer. Et mais je me questionne, je viens avec des questions. Là où l'open school est open, mais quand même est vraiment dans la règle de l'institution. Et finalement, cette ouverture-là ne produit pas l'émancipation dont tu parles, tu vois. Elle est vraiment un peu sous contrôle. Et donc j'ai cette remarque-là pendant cette rencontre-là en disant, bon, est-ce qu'un musée qui veut s'ouvrir à la diversité doit absorber la diversité et donc la mettre en scène, ou est-ce qu'il doit contribuer à ce que la diversité se développe autour de lui? Et donc je pose la question de la diversité comme une action, un musée qui va absorber tout et dire la diversité compris, ou un musée qui va dire est-ce que les moyens du musée, c'est comme ici à l'Atrium, est-ce que l'Atrium doit contribuer à ce qui se passe un truc ici, un truc là, comme un rayonnement, et donc il n'est pas là pour que tout soit ramené à lui, mais qu'il contribue par des actions plus petites, aider à l'assaut, supporter là, aider un spectacle là-bas, machin, faire qu'une diversité existe. Question un peu technique, parce qu'à Bruxelles, l'arrivée du Vils a absorbé beaucoup de moyens, et les assauts autour, queer, décolonial, on n'a pas de moyens, mais par contre, on est invité à venir parler dans l'open school. Donc on ne tient pas compte de notre précarité, mais on devient quand même des speakers de ça. Donc là, moi, je note ça, et je prends la parole là-dessus. Ça a un effet comme ça, et à peine la fin du talk se passe comme ça, moi je me suis dit bon, ça a créé de la tension, tout ça. La responsable qui organisait ça, qui travaille pour le musée, me dit on veut absolument mettre en ligne votre prise de parole. Donc la capitalisation même de ce qui est antagoniste. Et là, ça m'a intéressé, je me suis dit c'est incroyable. Et bon, j'étais un peu en colère, mais t'es doublement en colère. Enfin, tu dis, même quand t'es en colère et que tu portes une critique, ils disent, mais là, on va le mettre en ligne, on va faire plein de vues, les gens vont adorer. Et là, je dis, bon, wait, on attend. Moi, je le publie. Et puis, vous pourrez le publier à votre tour. D'accord? Et donc, moi, je le publie en le réintroduisant, comme je le fais là. C'est-à-dire que je rajoute le fait qu'on m'a demandé en plus de le mettre... Donc je fais la spirale. Au lieu de publier le texte tel que je l'ai écrit, je le rajoute en refaisant une introduction qui dit que, effectivement, cette fois-ci, je pense que ça va être difficile de le faire rentrer dans la case du musée, puisque je rajoute même l'intention du musée que de faire de ce discours-là de nouveau un objet de consommation. Donc je rajoute un tour à la spirale. Et après, je dis, voilà, c'est publié, vous en faites ce que vous voulez. Là, il est beaucoup plus dur à utiliser parce qu'il anticipe ce qu'on veut en faire.
Il n'est pas digestible.
Voilà. Mais du coup, c'est une leçon au sens que je raconte un truc que des gens ont vu, des gens connaissent. Tu racontes aussi une situation d'adversité par rapport à l'institution vis-à-vis de laquelle les artistes sont couramment habitués à fermer leur gueule, en fait. Donc les leçons, ça sert principalement à dire, bah, à l'endroit où vous vous taisez, moi je ne me tais pas, je prends ce risque-là, ce qui a fait dire à plein de gens qu'ils peuvent se le permettre. Du coup, on ne sait pas d'où je peux me le permettre, mais c'est une bonne manière de... Et beaucoup de gens ont dit ça, les leçons, c'est des choses... Ouais, mais quand on est à sa position de reconnaissance, sauf que personne ne le fait. Parce que pour moi, elles ne sont pas compliquées, les leçons, mais elles demandent un tout petit peu de courage. Et la leçon de Genève, c'est une invitation dans une école à venir faire une conférence à Genève sur des épistémologies caraïbes, autour d'Haïti notamment. Et j'explique aux étudiants pourquoi je ne vais pas venir faire la conférence en disant « Je vais parler devant une classe de gens privilégiés dans lequel il n'y a aucun caribéen. Moi, dans le territoire, la région d'où je viens, personne n'est en capacité de faire une école comme celle que vous faites. Donc si la Caraïbe vous intéresse, votre école doit financer des curriculums chez vous. » Et les étudiants, ils ont adoré et je leur ai adressé. Donc je ne viendrai pas vous parler, par contre, je vous enjoins à oublier votre école s'ils veulent parler de ces épistémologies qui permettent de les développer. C'est la même question que pour le musée. Si vous voulez consommer de l'épistémologie, au moins faites en sorte qu'elle puisse être produite dans les régions en question, qu'il y ait des doctorants, qu'il y ait des gens, et puis ils viendront vous parler, et ça fera du boulot pour les gens. Mais moi, d'être l'unique qui vient là vous parler à un public d'étudiants privilégiés d'une grande école d'art européenne, je ne peux plus. Et je leur explique que je ne peux plus le faire. Et donc, quelque part, de même manière, tu ne peux pas le faire, mais écrivant le texte, tu ouvres une possibilité de débat qui fait que tu fais quelque chose. Donc tu dis que tu peux pas, mais cette impossibilité peut quelque chose. Et donc ça a ouvert aussi pas mal de débats autour de ça. Et donc les leçons jouent une forme de stratégie de dire une chose assez simple, mais qui a finalement des conséquences, en fait. Et elle contrebalance, je dirais, la première partie, la nuit de la plantation, qui est une tentative de théorisation a posteriori, parce que les leçons sont des textes qui sont plus anciens, de tout ça, une retraversée de tout ça. Et au départ, j'avais prévu d'ailleurs de publier les leçons. L'éditeur en question voulait publier les leçons, qui ont eu un petit peu de célébrité en ligne, tout ça. Donc l'éditeur se dit, c'est bien, on publie les leçons, tout ça. Et finalement, je dis, j'ai quand même fait une introduction. Une introduction fait 135 pages. Ça fait un livre différent. Mais en réalité, au départ, je voulais faire un truc assez simple, et ça s'est compliqué en route.
Alors, on va peut-être conclure sur cette vaste programmatique, hein, à laquelle Françoise Vergès, évidemment, s'est associée. Décolonisons les arts. Bon. Et c'est étrange, et parce que j'ai l'impression que quand on essaie, en tout cas à la lecture de ce chapitre, hein, tu cites Fanon, tu cites Glissant, tu cites Raphaël Confiant aussi, hein, et on se dit, ben, sur le plan théorique, on comprend quelles sont les bases, mais sur le plan expérientiel, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Parce que, oui, évidemment, Fanon, premier fondateur de la pensée décoloniale, évidemment, bon, Glissant qui nous permet de nous évader aussi, avec le rhizome, etc. Mais sur le plan expérientiel, je veux dire, le mode d'emploi, là, on aimerait bien savoir un peu plus, si tu peux.
Ah, déjà, moi, ce qui est différent, quoi, ce qui n'est pas différent, mais ce qui est différent en quelque sorte, parce qu'on voit par exemple que Fanon est psychiatre, donc on va quand même se rappeler de ces Fanon, que sa théorie s'assoit sur une expérience en fait de médecin psychiatre. Voilà. Moi, je suis commissaire d'exposition. J'ai été éditeur, je suis aussi.
Les éditions du commun.
Là, c'est pas moi qui ai édité le livre, pour le coup. C'est la première fois que je fais un livre qui n'est pas édité par moi, mais j'ai édité auparavant. J'ai dirigé un centre d'art, j'ai étudié dans un centre d'art et commissaire d'exposition, et je suis producteur de cinéma. Et en fait, ce qui est assez particulier dans ce livre, c'est qu'il n'aurait pas été reçu de la même manière si ce n'était pas quelqu'un qui connaît très bien le domaine dont il parle. Parce qu'en général, le monde de l'art, notamment l'art contemporain, est souvent critiqué de l'extérieur. Une vision extérieure dira « Ah ouais, mais alors vous, dans l'art, vous pensez que… » et tout. Le livre est aussi différemment parce que moi, je suis quelqu'un de ce milieu, en fait. Hein. J'ai fait mon parcours, les gens reconnaissent mon travail, j'ai fait beaucoup d'expositions, j'ai produit pas mal d'artistes, d'œuvres, j'ai théorisé. Donc, quelque part, je suis quelqu'un de ce milieu. Et donc, ça, c'est plus rare, en fait, que quelqu'un de ce milieu décompose le milieu à ce point-là, parce que je le connais bien en fait, parce que je l'ai beaucoup observé, et j'utilise quand même quelque chose qui est que Fanon utilise aussi à certains points, je dirais plus au début de sa carrière que plus tard, c'est le principe de l'observation en fait. Quoi. En fait, c'est un livre d'observation. Hein. Au niveau expérientiel, tout est écrit. Je dirais que les références à des penseurs viennent s'agglomérer à des expériences vues et vécues. La première d'entre elles étant le rapport avec mon propre père, qui veut nous éduquer à l'école de la République et veut nous montrer quelque chose, et que moi je me dis, il est tellement obsédé par nous montrer quelque chose qu'il doit nous cacher quelque chose. Et de là, je comprends qu'il ne faut jamais regarder le spectacle qu'on veut nous montrer, mais toujours regarder ce qu'il cache. Ça va être mon bagage théorique, expérientiel et familial. Et je vais le poursuivre, hein, je veux dire, à chaque fois, on veut nous faire croire quelque chose. Le monde de l'art et de la culture est toujours en train de nous faire croire quelque chose, qu'il est bon, qu'il est moralement juste, qu'il est antiraciste, qu'il est... Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le croire. Donc cette espèce d'insistance à nous faire croire quelque chose montre que c'est tout le contraire. Que tu n'aurais pas besoin de tellement insister. Vraiment, le monde de l'art et de la culture, c'est le monde des bons, quoi. C'est le camp du bien. Non, c'est le camp du bien, quoi. C'est incroyable comme... Tout le monde veut sans cesse incarner le... D'ailleurs, on utilise toujours l'art comme l'élévation humaine et tout. C'est un panier de crabes et c'est un marché extrêmement sauvage de compétition où les gens... Et j'arrive pas à voir comment on peut continuer à maintenir un espèce de mythe de quelque chose qui serait une élévation de l'âme, etc. Ça, c'est l'art, mais c'est pas le monde de l'art tel qu'il est. C'est pas le champ de l'art constitué, c'est comme l'université. On peut dire le savoir, mais après il y a la réalité de l'infrastructure, de voilà comment se passent les compétitions, et là c'est une autre histoire. Et donc là, quelque part, pour moi, c'est prendre le monde de l'art comme un monde constitué qu'on peut observer dans sa sociologie, qui est en plus très classiste, hein, parce qu'on a un monde où les classes moyennes supérieures sont surreprésentées par rapport à d'autres métiers. C'est même un des mondes dans lequel ils sont le plus archi-représentés, sans que ce soit un sujet. La question de classe dans le monde de l'art ne se pose jamais, évidemment, puisque de toute façon, quasiment tout le monde est des classes supérieures. Donc c'est plus un sujet. On va parler un peu de racisme, un peu de sexisme, mais jamais des classes. Moi, je viens aussi essayer d'interroger le fait que mon rapport expérientiel, c'est quelqu'un qui vient des milieux populaires, qui est antillais, qui vient d'un sport antillais, et qui rentre dans ce milieu-là en croyant à l'espèce de ce qu'on limite qu'on nous raconte, et puis en engageant, de se dire, tiens, ok, d'accord, mais ça veut dire... Et puis, plus tu grattes, plus tu vois que c'est pas vrai, en fait. Et donc, tu te dis, mais pourquoi, à quoi ça sert, alors, tout ça? Et c'est là que je viens à la question des communautés. Je dis, parce qu'en fait... Le monde de l'art est partie intégrante en tant que producteur de récits, d'imaginaires, d'un pouvoir, et notamment d'un pouvoir colonial, qui va nous montrer, le cinéma organise notre manière de penser le monde, on le sait très bien aujourd'hui, les formes, les images, les textes sont des, contribuent pleinement à nous montrer ce qui est juste, pas juste, c'est normal, quoi. N'empêche, du coup, ça fait que tu dois réfléchir à mais qui produit ça, qui le produit, parce que quand même, tu dis, on est tous en train de censer devoir trouver des choses qui sont importantes, belles et justes, mais qui nous le dit? Et donc, quand tu rentres là-dedans, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vertigineux, cette question-là, elle a bien été cachée. L'art est un truc hyper dur à pénétrer quand tu ne connais pas. Et donc là, voilà, les prises que j'ai trouvées, c'est des prises de gens qui sont vraiment de l'intérieur. Et c'est là que des artistes, notamment des artistes blancs, l'ont un peu mal. C'est que c'est comme si tu étais accueilli dans la famille au bout d'un moment dans l'art. Tu connais des choses qu'on ne peut pas connaître de l'extérieur. Et quand tu connais ça, tu n'es pas censé
les dévoiler.
Tu es accueilli, tu vois. Et c'est là que les gens, ils se merdent. Là, c'est des arguments qui sont des arguments que... Encore une fois, je te dis...
L'insider.
Voilà, le livre n'a jamais été contesté sur son analyse, en fait. On peut dire qu'est-ce qu'on fait, ok, mais personne ne va te dire ça, c'est pas vrai, c'est pas juste... Non, je sais très bien de quoi je parle, et les gens savent très bien de quoi je parle aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai que pour des jeunes artistes, notamment, c'est un appui pour eux dans les écoles et dans leur pratique pour dire, ça s'est dit. Donc, comme Fanon a été un appui pour nous, pour nous projeter vers d'autres choses. C'est-à-dire que les livres, pour moi, ils ne servent pas à être canonisés, mais c'est des socles depuis lesquels on fait d'autres choses. Et pour moi, la question des usages, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'on fait? Mais au moins, tu as quelque chose
On sait au moins d'où on part.
Ouais, on a un espèce de point de départ. Et si on définit un autre point de départ, on peut peut-être faire autrement. Ça, c'est aussi ça, parce que pour moi, faire le grand projet, ça, c'est de la théorie, je dirais, des siècles passés. Y compris, pour moi, c'est là que je lâche Glissant. Hein. Oui. Quand il devient un métathéoricien, je le lâche. Oui. Alors que le discours antillais, je trouve qu'il théorise à partir d'une espèce d'inscription hyper forte dans le paysage antillais. Plus il se dit vers une théorie globale du monde et machin... Hein, plus je me dis, ouais, là ça va plaire aux blancs, ça.
Ouais.
Et du coup, c'est là que Glissant devient un espèce d'objet d'hystérie pour les blancs. C'est que finalement, ça devient un truc qui va flotter et que tout le monde peut taper dedans et tout le monde peut lui faire dire ce qu'il veut.
C'est ça.
Alors que dans le discours antillais, tu ne fais pas dire ce que tu veux.
Non.
Le truc, il est très ancré dans des choses très précises. Alors, c'est un parcours, il a fait des choses très importantes. Donc, moi, j'en parle avec beaucoup de respect. Mais je dis juste que je vois le moment où il y a tentation. Une théorie globale. On va dire, un grand intellectuel finit par faire une grande théorie. Glissant, c'est Glissant, cette inflexion de vouloir finir sa vie avec une espèce de grande théorie. Et ça, pour moi, je crois que c'est une erreur, c'est vers là qu'il a été. Mais moi, ça me touche moins, paradoxalement. Alors que dans le monde de l'art, cette partie de Glissant qui passionne tout le monde. Poétique de la relation, et puis après, tu vois, toute la question du chaos au monde. J'ai l'impression que là c'est génial, pourquoi? Parce que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi avec ça. Poétique de la relation, ça veut dire, on peut être amis, hein, tu vois, l'histoire n'existe pas, le machin, ça veut dire qu'on est une relation. Les gens utilisent ça de manière
complètement... Tout est pardonné.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais.
On ne poursuit pas de poésie. Il n'y a pas de poésie vivante, je ne pas si bon.
C'est ça. Mais parce qu'en fait aussi, à la décharge de Glissant, une œuvre se lit comme une série de continuités, discontinuités. Si tu isoles des livres sans montrer d'où ils viennent, tu leur fais dire n'importe quoi. Glissant, à un moment donné, il cherche à sortir d'une impasse, qui est notamment les politiques d'identité, qui vont émerger avec toutes les Black Studies américaines. Et donc, il essaie de trouver une autre voie de ça. Il faut savoir que c'est par rapport à ça qu'il se situe.
C'est clair.
Et donc, il dit, bah, là, on va être enfermé dans un truc, il faut qu'on s'en libère. Mais là, il y a des gens qui se jettent comme des morts de faim sur cette libération pour revenir en scène en disant, ah, dans ce cas-là, on arrête un peu les blancs, les noirs, on est tous... Et là, ça devient grotesque.
Ouais.
Parce qu'il parle d'un endroit précis, il parle d'un lieu précis vers un lieu possible. Et il est ancré, en fait, en réalité. Ouais. Alors qu'on en fait une philosophie flottante en mettant trois citations de deux phrases. C'est Glissant, c'est devenu du...
Ouais.
L'échantillonnage. Parce que pareil, ces essais, il faut les lire. Hein.
Tout est bon dans le Glissant.
Ouais, mais tu prends plein de petits morceaux, mais après, quand tu es dedans, même dans Glissant, les pratiques de ressassement, peu de gens notent ça, toi en théorie littéraire. Les bouquins de Glissant, c'est des trucs qui se répètent, recombinent, refont, ils reviennent, ils reprennent. Et ça, c'est une forme qui, pour moi, il faut reconnaître à la forme une importance. Et si tu prends un petit extrait qui te va, tu n'as pas vu le mouvement de la pensée qui est de...
Il y a des lieux.
Oui, il y a des lieux. Il y a surtout pour moi une espèce d'effet de... Comment dirais-je,
une hauteur.
Baroque chez lui, qui est un effet d'accumulation.
C'est ça.
Là, une parole par accumulation.
Ah. Eh bien, on va peut-être conclure... Je ne pense pas qu'on va conclure aujourd'hui. Non, on ne va pas conclure, du moins. On va surtout dire parce que tu as semé dans notre esprit le germe des colonies.
Bon.
Et ça, c'est terrible. Nous l'avions déjà, mais il se retrouve en résonance avec la pensée de Chaboisseau et avec les éclairages nouveaux que tu apportes. Et nous allons te donner rendez-vous très prochainement, au 14 décembre. Gérald, on peut en parler de cette journée d'études internationales que nous allons organiser, n'est-ce pas, autour
du sacré, le religieux, le spirituel, le religieux, le sacré, le spirituel, dans les sociétés globales contemporaines.
Eh bien.
Où une part très importante est allouée aux artistes et aux théoriciens de l'art. Voilà. Donc c'est une manière de nous dire que nous t'y attendons. Nous t'y invitons en tout cas et nous espérons que tu nous feras le plaisir et le privilège d'être parmi nos intervenants. Je crois que c'est une pensée qui est trop importante pour qu'elle puisse ne pas s'être présente ce jour-là. Donc voilà Olivier, je sais que tu vas devoir préparer ton discours, enfin ta présentation. Je te remercie au nom de Mélange Caraïbe, de tous les abonnés de la chaîne de l'Université des Antilles que nous représentons ce soir pour ce très riche échange qui va donner lieu à d'autres livres, à d'autres choses.
J'en suis sûr, ouais. J'en suis sûr. Ah, merci à vous.
Merci.
Donc on se retrouve bientôt.
Ça. Oui,
très bien.